France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Ah, c'est une Française, mais on ne la voit plus depuis tellement longtemps. Elle s'est exportée, figurez-vous, comme beaucoup de musiciens qui vont jouer dans les grands orchestres internationaux. Ils ont bien raison de le faire, ça ne les empêche pas de revenir nous voir une fois de temps à autre avec leur orchestre, avec leur disque, et puis avec un peu de radio. Jusqu'à 13h, nous sommes avec Juliette Hurel.
Thank you.
Un extrait de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, le ballet complet dirigé par Yannick Nézet-Séguin avec l'orchestre philharmonique du Rotterdam. Et en soliste, on peut le dire ici dans cet extrait, la flûte de la savoureuse Juliette Turel. Bonjour Juliette.
Bonjour.
On dit savoureuse parce que justement ça a été dans la presse écrite qu'on avait eu ce terme-là.
Paraît-il, oui.
Paraît-il, voilà. C'est bien, savoureux, c'est bien.
Savoureux, oui.
Non, ça ne plaît pas plus que ça, savoureux.
Si, si.
C'est un enregistrement donc de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam dont vous êtes la flûte solo. Depuis combien de temps maintenant, Juliette ?
Eh bien, 17 ans.
17 ans déjà ? Oui. Ah oui, d'accord, moi j'aurais dit à peine une dizaine, mais non.
Mais non,
le temps passe, comme on sait bien. Et une musique que vous adorez absolument, ce Ravel, je crois.
Ah là là, je pense que c'est vraiment la musique qui me touche le plus, qui me transporte absolument. Et là, en écoutant ces petits extraits, même je suis tout à fait à mon aise et toute chose, vraiment, c'est ma musique.
Quand à Rotterdam, on joue un Ravel comme ça, on dit la flûte de Juliette, c'est obligatoire, française, dans cette musique française, non ?
Ah non, en fait, à l'époque, nous étions encore deux flûtes solo. Il se trouve qu'actuellement, je suis toute seule, mais c'est un orchestre, comme beaucoup d'orchestres, où il y a deux solistes par pupitre de bois. Et donc, pour un enregistrement comme ça, dans Daphnis et Chloé, il y a quatre flûtes, c'est-à-dire que, ou mon collègue, ou moi, pour flûte solo, devait jouer l'enregistrement. Et je lui ai un petit peu demandé de le faire. Mais c'est vraiment pour une question de joie de jouer et de plaisir. Ouais. Donc mon gentil collègue m'a laissé jouer ça. Et c'est lui qui joue la partie de flûte en sol qu'on entend à un moment.
C'est ça, de flûte grave.
De flûte grave, voilà. Ouais. Et c'est d'ailleurs très bien fait. Je le salue au passage. Mais c'est pas forcément la flûtiste française qui va jouer le solo. Non. On s'arrange entre collègues.
D'accord. Yannick Nézet-Séguin qui dirige ceci. Vous l'adorez, je crois, lui
je
aussi.
Je le suradore.
Ah, carrément, plus
ah,
que
oui,
ça
oui. Ah oui, oui, non, je suis... Je l'aime immensément.
Je crois que c'est tous les musiciens d'orchestre. Hein. C'est à cause du personnage ou du personnage musical.
Tout, c'est un tout. C'est humainement quelqu'un de tellement généreux, disponible, et j'ai la chance, grande chance, d'être très amie avec lui. Donc, en plus du plaisir musical, on a aussi cette complicité amicale. Mais lors du sur scène, il y a vraiment une complicité palpable. Ça, c'est fou tout ce qu'il peut exprimer avec ses yeux, avec son visage. C'est vraiment un chef qui est extrêmement en contact avec le musicien. Certains chefs qui sont aussi excellents sont plus peut-être dans... On ne peut pas forcément attraper leur regard. Mais Yannick, il est tout le temps là. Il est tout le temps en train de... Il y a tout le temps une complicité, des petits clins d'œil, des sourires. Non, c'est extrêmement précieux.
Il s'en va en 2018, hein, dans pas longtemps, même trois ans en fait.
Hein, déjà.
Ah bon, déjà ?
Oui.
Vous avez encore trois ans pour en profiter.
Oui. Et puis après, il viendra quand même nous voir.
D'accord, il ne vous abandonnera pas totalement.
Non, il ne nous abandonnera pas.
C'est vrai qu'on vous a vu il n'y a pas longtemps à Paris, hein,
oui.
Avec Nézet-Séguin, entre autres dans ce concert Tchaïkovski, on se rappelait ça juste en commençant l'émission, la cinquième. C'est vrai qu'on se dit, qu'est-ce qui fait qu'un chef marche comme ça, qu'il a cette espèce d'équilibre entre d'un côté une très grande énergie, et on a la pression quand même, connaissance du style, des répertoires, de ce qu'on peut faire avec. C'est pas simplement, en effet, le type qui arrive avec sa personnalité incroyable.
Et ben oui, c'est un tout. Il travaille énormément, donc ce n'est pas juste sur l'instant. Il a cette double qualité de travail en profondeur et de sur l'instant, au moment des concerts, une joie et comme ça, passer les choses au public et c'est très électrifiant, électrisant de jouer avec lui. Et le public le ressent aussi immensément, cette espèce de joie de communiquer. En fait, je pense qu'il est excessivement heureux de faire cette musique et de faire de la musique et de le transmettre.
Ouais. Histoire de communication, la musique, on le redira jamais assez. Hein, ça l'est, en tout cas. Rotterdam, donc, depuis 17 ans, vous habitez là-bas, Juliette Turel. Hein, on va vous découvrir au fil de cette émission. On redira tout cela. Vous êtes heureuse de jouer avec cet orchestre, bien sûr, qui vous a mis en contact avec beaucoup de grands chefs. Avant, Nézet-Séguin, c'était Valérie Gergiev.
Mais oui.
C'était quand même pas mal non plus, vous aviez beaucoup aussi, je crois.
Je suis pas mal logée, je dois dire.
Enfin, c'est vrai, hein.
Oui,
vraiment un orchestre magnifique. Hein.
Oui, c'est un orchestre magnifique. Et puis, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de très bons chefs. J'aime beaucoup l'ambiance de travail, j'aime beaucoup le lieu où nous travaillons, le Doulen. Tout cela.
C'est quoi le Doulen ? C'est votre salle ?
Oui, ça s'appelle le Doulen. C'est une très grande salle de 2000 places où nous répétons tout le temps. Donc c'est quand même une chance aussi de tout le temps jouer dans la salle de concert. Ah. Et moi j'habite à 3 minutes en vélo, ce qui est un confort absolu, donc tout cela est parfait.
Le paradis quasiment. Encore Yannick Nézet-Séguin, l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Et on a choisi dans La vie de héros de Richard Strauss, le moment des ennemis du héros, parce que c'est là où il y a plein de bois.
D'accord.
Les ennemis du compositeur, c'est les bois. C'est
très
ça
qu'il
nous dit Strauss.
Très
mauvais
bien.
Esprit, non ? Non,
t'es très bien. Non.
On arrête sur l'arrivée de la cantatrice violon bien sûr, dans cette vie de héros de Richard Strauss. C'était l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, il n'y a pas 4 ans, et autant elle se souvenait parfaitement du Ravel tout à l'heure, Julia Turel, autant là vous vous souvenez à peine de ce que vous n'aimez pas Strauss, c'est ça, j'ai pu comprendre.
Non, je ne dirais pas que je n'aime pas Strauss, mais c'est... en tout cas cette vie de héros, ce n'est pas mon œuvre préférée.
D'accord, très bien. Vous êtes beaucoup de musiciens français à Rotterdam d'ailleurs, tiens.
En fait, nous sommes 3. Ouais. Mais il y a beaucoup de francophones et donc derrière moi qui me fait des guilis, il y a mon ami Julien Hervé à la clarinette qui donc lui est totalement passionné de la musique de Strauss, donc c'est bien, ça fait un équilibre entre nous deux. Et puis nous avons un altiste qui s'appelle Pierre-Marc Vernaudon. Et autrement des francophones suisses, québécois et belges.
D'accord, je pense que vous travaillez beaucoup à Rotterdam ça.
En fait, on a quand même des concerts toutes les semaines. Toutes les semaines, on change de programme. De temps en temps, une petite semaine de libre, mais pas beaucoup. Non, on travaille beaucoup.
Tous les jours, c'est ça? Répétition,
non,
concert,
en fait,
quand même pas.
On a si vous voulez tout savoir, le lundi est généralement libre. Nous travaillons mardi, mercredi, jeudi, concert, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Ah oui, il y a quatre concerts dans la semaine.
Des grosses semaines avec Yannick, avec Ergef, parfois 3, parfois 2. Et aussi, nous jouons à Utrecht, nous jouons au concert de Gebau d'Amsterdam, à Anvers souvent aussi. Et puis donc à Paris, 3 fois par an.
Mais donc il est courant que vous ayez 3 concerts par semaine.
Oui, c'est très courant.
Et en général, c'est même plutôt 4. Enfin, c'est plutôt 3 et puis un petit peu plus, un petit peu moins sur les 4.
Oui, ça dépend. Ça dépend
pour savoir les fonctionnements, c'est très variable selon les orchestres.
Oui, tout à fait. Mais c'est une chance, je trouve, de ne pas jouer qu'une seule fois. Bah, j'aime jouer plusieurs fois. C'est vrai qu'on s'approprie mieux l'heure. Et puis c'est là aussi qu'on voit avec les chefs qui changent d'interprétation. Ça, c'est toujours... plus excitant pour nous musiciens de voir des petites différences entre les concerts.
D'accord. Donc 3 jours de répétition, 3 jours de concert, en gros, c'est quelque chose comme ça. C'est mieux que de jouer qu'une seule fois par semaine, mais c'est mieux aussi que jouer 9 fois par semaine, ce qui arrive à certains orchestres,
Oui.
Je pense aux Viennois par exemple.
Oui,
c'est compliqué de pas tomber dans une vraie routine, quoi.
Oui. Non, c'est vrai que ça, moi, j'aime bien le fait de changer toutes les semaines de répertoire et je me réjouis tout le temps de découvrir la saison qui suit et je vois que j'ai certaines œuvres que je n'ai jamais jouées. Alors, je suis toujours très excitée. Donc ça, c'est bien. L'année prochaine, par exemple, 7e symphonie de Prokofiev que je n'ai jamais jouée. Ça me plaît toujours.
France Musique. Il est midi 16, vous écoutez le magazine aujourd'hui consacré à Juliette Turel et à son nouveau disque. Un disque tout Mozart avec les quatuors pour flûte. Avant de venir à ça, je voulais quand même qu'on fasse quelques petites références, quelques petits clins d'œil au passé. Thank you. voulais qu'on cause baroque, Julia Turel, avec une référence flûte, hein. Pas pour le baroque, a priori. C'était Jean-Pierre Rampal qu'on entendait ici dans ce concerto de Handel, avec Jean-François Paillard, orchestre et direction. Alors, je vous parlais de ça parce qu'évidemment, la flûte d'un côté, et puis aussi, tous ces enregistrements errato de Jean-Pierre Rampal sont en train de ressortir. On en est là au volume 2, années 63 à 69, avec ce Handel qui remonte à un autre temps, non?
Oui, mais enfin, je trouve qu'il faut quand même saluer ces enregistrements. D'abord, Jean-Pierre Rampal a fait redécouvrir toutes ces œuvres qui n'étaient pas connues. Oui. Donc, merci et chapeau. Et ensuite, même si c'est pas du tout mon goût stylistique, j'admire la vitalité de son jeu.
Et la robustesse aussi, hein.
Ah oui, et puis c'est extrêmement digne, extrêmement noble. Donc merci Jean-Pierre Rampal.
Mais c'est quand même pas votre tasse de thé, j'ai bien compris, hein.
Je ne dirais pas.
Pourquoi vous ne direz pas? Parce qu'il ne faut pas dire non plus
parce que je
du mal
que
de Rampal.
Non, je n'ai pas du tout envie de dire du mal de Rampal. C'est quand même toujours une grande inspiration pour tous les flûtistes vivants. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. C'était quand même un personnage haut en couleur et que j'admire.
Et vous avez une oreille peut-être pour les baroqueux, vous, non?
Mais moi, je suis beaucoup plus attirée par le traverso, effectivement. Je suis très fan de Bartol Kuiken, que j'ai eu la chance de rencontrer, d'inviter. Je suis enseignante au conservatoire à Rotterdam. J'ai invité pour faire des masterclass et je suis en contact email avec lui. D'ailleurs, je lui ai aussi écrit pour demander des petits conseils sur les quatuors de Mozart. L'enregistrement précédent que j'avais fait avec Hélène Couvert sur une sonate de Beethoven, j'ai aussi posé des questions.
Sur Beethoven aussi.
Oui, sur Beethoven aussi, sur les reprises, sur qu'est-ce qu'il pensait de cette sonate. Enfin, nous avons une correspondance qui m'est très précieuse et je suis extrêmement, comme je l'ai déjà dit, admiratif de son jeu. J'aime beaucoup le traverso joué par Bartol Kuiken.
Et vous le faites le traverso, vous restez à
non,
votre,
pas
la
du
flûte.
Tout.
Non.
Pas du tout. Peut-être un jour, je vais m'y mettre.
D'accord. Mais avec l'idée quand même, quand vous faites, et ça se sent dans le Mozart, quand vous jouez la flûte moderne, d'avoir peut-être une sonorité, des articulations qui feront penser à ces instruments-là.
Oui, et de toute façon, je ne joue pas cette musique sur ma flûte en or. Je fais ça sur la flûte en bois. Je trouve que c'est beaucoup plus idiomatique et aussi plus facile finalement, je trouve, pour trouver un phrasé naturel. C'est plus facile sur la flûte en bois et en revanche je ne jouerai jamais du Jolivet ou du Prokofiev sur ma flûte en bois, je n'y arrive pas. C'est vraiment pour moi deux instruments qui appartiennent à des époques.
Bartol Kuiken, il fallait parler évidemment, c'est un personnage en plus qui est extraordinairement attachant, très intelligent et assez très généreux en plus.
Puis d'un calme et d'une gentillesse, et puis qui a une culture immensissime et puis qui n'est pas avare en anecdotes. Donc moi, j'adore l'entendre me raconter son enfance, comment il est arrivé à découvrir, grâce à ses frères aînés, toute cette musique baroque et était extrêmement passionné dès son plus jeune âge.
On va l'entendre ici, Concert Royal de Couperin, qu'on a choisi juste au dernier moment après. Est-ce que ça vous va?
Ah, parfaitement.
Thank you.
C'était le premier concert royal de François Couperin en extrait, bien sûr. On l'entendait ici par Bartold Kuyken, qui était au Traverso. Robert Conan et Wilhelm Kuyken étaient à ses côtés. Allez, on va parler quand même avec vous, Julia Turel, une fois qu'on a entendu ceci. Merveilleux, magnifique. On a évoqué les mannes de Bartold Kuyken, parfait. De ce Mozart, l'équateur avec flûte, alors qu'ils sont, bon, je connaissais pas l'histoire de ces quatre quatuors. Ça m'a l'air assez compliqué parce qu'il y a des pièces originales, d'autres qui ne le sont pas, si j'ai bien compris, c'est ça? Ça marche comment?
Je ne crois pas.
Ah non? Je vais vous comprendre, la dernière, on ne savait pas d'où, je sais d'où elle sortait.
Oui, il y a le dernier, on ne sait pas trop d'où il sort. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces quatuors ont été commandés à Mozart par un flûtiste amateur hollandais, ce qui est quand même drôle.
Oui.
Et qui s'appelait De Jean, donc De Jong, et qui était près de ses sous, comme certains Hollandais. Et c'est vrai, enfin, c'est ce qu'on dit, mais bon, c'est pas tout le temps vrai.
Vous l'avez vérifié, vous ?
Non, en fait. Et donc, il n'était pas content à Mozart parce que monsieur De Jean était tard dans la paye, il a tardé à payer. Et il avait commandé deux concertos faciles et je crois cinq ou six quatuors. Et puis Mozart n'a pas été payé autant qu'il aurait dû l'être. Et donc, du coup, il avait une dent contre ce monsieur de Jong. Et puis, en plus, cet amateur flûtiste n'était pas content du deuxième mouvement du concerto pour flûte, qu'il trouvait trop difficile. Il a demandé à Mozart de le réécrire. Enfin, bon, ça a été l'expérience de Mozart avec la flûte n'était pas très réussie.
Déjà qu'il avait une dent contre l'instrument au départ,
oui. Donc tout ça, ça n'a pas arrangé les choses. Mais le résultat est que nous avons quatre magnifiques quatuors et qui sont. Moi, je ne les connaissais pas tous très bien et j'ai donc grâce à cet enregistrement pu plus les découvrir et je trouve qu'ils ont tous leur intérêt et c'est un grand plaisir de les jouer.
Oh, donc c'est vraiment de la très belle musique. En plus, vous avez le quatuor voce.
Voilà. Alors excellent. Ça, absolument excellent, absolument adorable et un plaisir immense de travailler avec eux. J'ai été extrêmement surprise de leur côté. Il n'y a jamais de tension. Mmh. Ils sont tout le temps de bonne humeur. Ils sont tout le temps partants et musicalement, on s'est vraiment bien entendu. Enfin, c'était vraiment un bonheur, je dois dire, j'ai rarement rencontré ça en musique de chant.
Ah, et puis surtout en quatuor, hein, qu'on sait que c'est pas toujours facile entre eux, donc
faut arriver à se mettre dans le... Oui, mais ils sont super relax, quoi. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est une immense qualité, c'est vrai pour eux, ils jouent énormément, ils jouent presque tout le temps, et s'il y a une petite tension, il y a une petite blague qui va passer au-dessus de ça, et d'ailleurs, l'enregistrement, j'étais moi-même assez tendue, et... Ils ont tout fait pour que je...
Pourquoi vous étiez assez tendu?
Parce que c'est moi.
Voilà, d'accord. Je suis quand comme vous ça. Enregistrez ou c'est en général?
Voilà, ce n'est pas une partie de plaisir.
Ah oui?
Et pourtant...
Ça met pas ça l'enregistrement?
Mais non, je flippe à fond. je suis archi... Donc ils m'ont vu arriver le matin et ils m'ont dit, mais Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Et ça, je pense que ça devait se voir sur mon... Genre, est-ce que le son, ça va aller? Est-ce que je vais pas avoir les lèvres gercées? Est-ce que je vais être bien dans la musique? Est-ce que la prise de son va me plaire? Est-ce que... Enfin voilà quoi. Est-ce que je vais y arriver? Enfin, je me mets une pression énorme.
Bah, stress normal en même temps, c'est un disque, hein. On fait pas disque pour rien non plus, hein.
Mais non, mais c'est stupide d'un côté, puis a priori, on répète autant de fois qu'on veut, si on n'est pas bien. Mais quand même, le temps était assez limité aussi. Mmh. On avait 3 jours, enfin 2 jours et demi même.
Ce qui aujourd'hui est pas mal quand même, hein, pour un enregistrement.
Oui, on va dire ça, mais non, je suis pas du tout détendue pour aller faire un enregistrement.
Ouais. Les deux violonistes, alors je le signale quand même, puisque évidemment, les quatuors avec flûte, donc il y a un seul violon, un alto, un violoncelle.
Oui.
Cécile Roubin et Sarah Dayan se sont alternés en fait, hein,
voilà.
C'est vrai, hein, deux quatuors chacune.
Mais en fait, c'est ce qu'elles font dans leur vie de quatuor de tous les jours. Elles alternent, et je trouve que c'est une très belle idée. Mmh. En fait, il n'y a pas de premier violon fixe et deuxième violon fixe, elles alternent. Donc c'était aussi tout à fait logique de le faire comme ça dans le disque.
Alors un premier extrait, ce sera pour l'allegro initial de ce quatuor pour flûte, le troisième en do majeur.
Thank you.
C'est de la belle musique, dites. C'était l'allegro initial de ce troisième quatuor pour flûte de Mozart, Julia Turrell avec le quatuor Voce. Le disque est paru il y a peu sur le label Alpha. Ça tombe bien, on parlait de ce label hier avec Didier Martin. Mais tu vois, on a l'exemple aujourd'hui d'un des disques qui paraît ici. Oui, une belle musique, disais-je, très fraîche et à la fois, enfin, recherchée. C'est du Mozart inventif, hein. C'est pas du Mozart. Vous allez dire, mais est-ce qu'il y a du Mozart qui remplit d'ailleurs?
Non, je
il
n'y en
a pas en plus. Ouais, même pas. On parlait tout à l'heure du côté baroque. Ça se sent, Julia Turrell, par la sonorité, bien sûr, de votre flûte en bois, mais aussi la manière dont le quatuor Voce joue lui-même, à la fois très à l'écoute, très à l'affût de ce que vous faites, et puis avec des sonorités qui sont, on le sent bien, hein, qui recherchent de ce côté-là.
Oui, en fait, la première fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons déchiffré les quatuors comme ça, pour voir si on arrivait à s'entendre, voir si on était sur la même longueur d'onde, et ils m'ont tout de suite dit, mais nous, on est complètement ouverts à ce que tu désires et on n'a pas d'idées précises, préconçues en tout cas sur ces quatuors. Et c'est vrai que moi, j'avais envie d'une interprétation pas du tout romantique aux cordes. J'aime vraiment le côté un archet assez fluide et pas de vibrato... excessif. Et ça, ils étaient complètement partants.
C'est vous qui avez suggéré ça, quand même.
Ah oui, oui. Mais naturellement, ils le faisaient aussi. Mm-hmm. Mais parfois, si je sentais un petit peu de appassionata un peu excessif.
Manon trop
dans le stylo, dans le style, j'essayais de leur dire gentiment, est-ce qu'on peut un petit peu... Parce que c'est vrai que moi, en tout cas à la flûte, c'est vraiment Mozart, je l'aime simple, sans chichi et aussi donc avec très, très peu de vibrato pour parler techniquement. Et puis évidemment, nous avons été aussi à la recherche de couleurs mystérieuses, éclatantes, enfin de essayer de faire un panorama très, très développé d'émotions et de... Et dynamique.
Mais c'est très curieux parce que il y a 10 ans, 15 ans, on avait deux types d'interprétations. Ce répertoire-là, soit évidemment, je ne vais pas dire à la rampale, mais enfin, dans cette tradition-là, on a ce répertoire, ces instruments, et puis on fait cette musique-là. Mmh. Et puis les baroqueux qui venaient avec leurs articulations, leur manière, leur étude sur les choses. Et le mariage entre les deux ne se faisait pas. Ça fait relativement peu de temps, et, avec des musiciens qui sont jeunes aujourd'hui, que ce mariage se fait, que des musiciens du répertoire disent, j'entends ce qui se fait du côté des baroques et de Koïtkeun, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple.
Eh bien, oui. Enfin, moi, j'ai essayé de réfléchir d'où me vient cet amour de... Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé écouter les cantates de Bach par Herweck, par exemple. Fut un temps, j'écoutais ça, mais tous les matins. J'ai été beaucoup Rameau, Lully. Et puis ensuite, les concertos de Mozart. C'est vrai que je peux pas écouter des concertos de violon de Mozart par des violonistes qui jouent à archi vibré. Non, c'est vrai que mon goût se dirige vraiment par... J'aime beaucoup les versions dites classiques de Mozart. Je me dirige plus vers cela.
Pardon. On va vous laisser tousser et puis on va aller écouter un peu de musique. Un deuxième extrait, Juliette, de ce disque-là. C'est pour un superbe mouvement qui est dans le premier quatuor, un adagio absolument magnifique. C'est en l'air. Mais c'est comme ça, il y a quelque chose derrière. Il y a un rondeau derrière.
Il y a un joli rondeau.
Non, on se demande s'il n'a pas voulu en l'air comme ça quand même. Non, c'est marqué Attaka avec la suite,
ah,
Juliette.
Oui,
quand même.
Absolument.
Je me posais la question en écoutant la surprise, c'était un peu bizarre. Mais enfin, bon, fait-on jamais. C'était le premier quatuor pour flûte de Mozart, l'Adagio, absolument magnifique. Comme ça, et vous me disiez, la flûte en bois, c'est le compromis idéal pendant qu'on écoutait ça, Juliette Turel.
Oui, je n'arriverai pas aujourd'hui à jouer ce mouvement lent, notamment sur ma flûte en or, parce qu'il y a un côté très rond, je trouve, de la flûte en bois.
Plus intime aussi.
Plus intime et pas du tout brillant, en fait. Ouais. Et je trouve que ce mouvement est tellement, comme vous disiez, intime et doux et pas très concret. Ouais, j'aime bien ce côté. Et puis le mélange avec les pids, je trouve. Et c'est vrai qu'en général, quand on joue avec des cordes, ils adorent le son de la flûte en bois. C'est vrai que ça se mélange très bien avec les cordes.
C'était donc Juliette Turel avec le Quatuor Voce, leur dernier disque, est paru sur le label Alpha.
France Musique.
Oui, Juliette, quand je dis à Antoine un Spoon, c'est ça un Spoon.
D'accord.
Ça, c'est ce que vous venez d'entendre.
Voici le Spoon.
C'était un Spoon. Ça, on dit sonal, normalement. Mais Spoon, je trouve, c'est plus mieux. On reviendra peut-être à votre disque tout à l'heure, mais il est temps à 12h40 de causer Proust et questionnaire. La qualité que vous préférez, Juliette, chez les gens, tiens.
La gentillesse.
La gentillesse, d'accord. Qu'ils soient gentils avec vous ou gentils dans l'absolu?
Oh non, gentils dans l'absolu. Enfin, le don de soi, la gentillesse, l'écoute de l'autre. Enfin, tout ça, pour moi, ça fait partie de la même chose. Je suis très touchée. Et j'aime beaucoup les gens gentils, voilà.
Votre principal défaut, à l'inverse, c'est quoi?
Je toujours vouloir trop bien faire.
Ah oui.
C'est un peu maladif. Mais donc, non, et du coup, je me mets un peu des bâtons dans les roues parfois.
Ouais. Et pour la musique seulement ou pour tout dans la vie?
Non, pour tout.
Pour tout, ouais.
Pour tout, et oui, ça peut être fatigant pour les autres aussi. Autour de moi, j'imagine.
Vouloir bien faire pour qui? Pour vous-même?
Pour
quelqu'un
enfants,
d'imaginaire? C'est pour la chose même?
Pour mes enfants, faire bien manger, bien organiser les babysitting.
Vous avez peur qu'ils vous aiment plus ou vous ne faites pas bien manger, c'est ça?
Ah non, pas du tout. Non, mais ce n'est pas bien à manger. Enfin, non, pas du tout. Non, mais je me mets toujours des exigences assez hautes.
D'accord.
Voilà. Mais j'apprends à m'asseoir et à me détendre aussi.
Qu'est-ce que vous voudriez être?
Ben, moi, c'est pas mal.
Tant qu'à y être.
C'est beaucoup de travail, déjà.
D'être soi-même. Le pays où vous désireriez vivre?
Eh bien, où j'habite.
C'est-à-dire?
La Hollande.
La Hollande, ah oui, c'est ça, oui.
Ah oui, c'est ça.
Rotterdam, donc.
Oui, non, parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un... Je suis assez terre-à-terre, en fait, et je pourrais très bien dire j'aimerais habiter en Italie, parce que j'adore l'Italie, mais j'aime ma vie en Hollande, avec c'est une grande qualité de vie, avec beaucoup de verdure, pour les enfants, vraiment une facilité d'accès à tout ce qui est sport, amis, enfin tout est assez fluide, aller chez les copains, c'est facile, et puis pas de transport, pas de métro, pas de bruit, pas de... Voilà, enfin ça me convient bien.
Je comprends. Votre héros dans la vie réelle?
Alors c'est Monsieur Aboutaleb.
C'est qui, Monsieur Aboutaleb?
C'est le maire de Rotterdam.
Ah bon?
Oui.
D'accord.
Voilà.
Vous connaissez ou c'est qui?
Oui, je le connais. Ouais. Il soutient beaucoup l'orchestre, donc c'est très important pour nous. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui, notamment au moment des attentats de Charlie Hebdo, a vraiment... haut et fort dit que il est lui-même musulman, donc c'est quand même un maire qui est arrivé, c'est un Marocain qui est arrivé en Hollande assez tard, à l'adolescence, et qui s'est construit lui-même d'une façon absolument incroyable, et qui aujourd'hui donc est maire de Rotterdam, et à mon avis il va pas s'arrêter là, et il est très engagé et très fâché contre les intégristes qui font des choses horribles. Voilà, et il le dit haut et fort, et j'ai parfois même peur pour lui.
Voilà. Même courageux, donc.
Extrêmement courageux.
Votre compositeur préféré, Ravel, mais ça, on l'aura compris. Votre peintre favori, c'est pas très loin.
Pas très loin, c'est Claude Monet.
Claude Monet, d'accord. Et puis alors, votre auteur favori, alors vous avez été très précise, les poèmes de Victor Hugo.
Oui, en fait, j'aurais pu mettre plein de choses, mais j'ai sur ma table de nuit un livre très beau que ma maman m'a offert, de plein de poèmes de Victor Hugo, un grand livre, en plus, c'est agréable, parce que parfois, les poèmes, ce sont tout petits livres, et voilà. Et je lis ça sans m'enlacer, et je trouve que c'est tellement, les émotions sont tellement bien dites que ça me parle beaucoup. Ouais. Mais j'aime la poésie depuis peu.
D'accord.
Voilà.
Découverte récente.
Oui.
Auparavant, c'était quoi, roman?
Oui, plutôt les romans.
C'est ça.
Oui.
Maintenant, la poésie. Vous savez qu'on l'a mis en musique parfois, Victor Hugo. Hein, c'est ce qu'on a choisi ici.
Ah!
C'était notre tout petit clin d'œil de l'émission au vocal, la voix de Felicity Lott. Au piano, c'était Graham Johnson. Dans cette guitare, musique de Bizet et donc poème de Victor Hugo. Voilà, les hommes comme on les aime, Julia Turel, hein, comme on aimerait les rencontrer. Hein,
oui, j'adorerais.
Hein, rencontrer Victor Hugo.
Oui.
Alors, faut dire que vous faites des rêves de temps en temps, vous rencontrez des gens célèbres aussi.
Oui, j'ai fait un rêve magnifique, j'ai rêvé que je rencontrais Maurice Ravel.
Oui,
d'accord. Et donc, c'était lors d'un dîner... un grand dîner, je sais pas, il y avait des grandes tables rondes et puis... Oh, mais je vois Maurice Ravel assis à une table, tout sage, à côté d'une amie, je pense. Et je dis, Monsieur Ravel, excusez-moi de vous rencontrer, mais vous êtes encore vivant, c'est génial, j'avais pas du tout réalisé. Et je dis, est-ce que je voudrais tellement jouer votre trio pour... Est-ce que vous m'autorisez à faire la transcription du trio pour violon, violoncelle, piano?
Ah oui.
Il lui met bien sûr.
Ça vous est venu comme ça pendant le rêve?
Non, parce que je voudrais vraiment jouer ça.
Ah, c'est ça, d'accord.
Je voudrais vraiment le jouer. Et donc, il me dit, mais pas de problème, bien sûr, c'est pas un problème. Et je le voyais, il était en train d'essayer de faire fonctionner un téléphone portable et voilà, et c'était merveilleux.
Vous lui appreniez.
Oh non, moi je déteste ces instruments. Donc,
ah bon?
Oui, je suis d'accord. Absolument contre. Donc, mais sa bonne amie lui apprenait.
D'accord. Voilà. Donc si vous faites maintenant le trio de Ravel avec la flûte, vous pourrez dire avec un primatour du compositeur. Même, c'est ça, hein.
Voilà.
Par rêve interposé, vous faites souvent des rêves comme ça? Vous êtes une rêveuse?
Oui, je rêve trop. Même.
Ah bon?
Parfois, c'est terrible. Je rêve un peu trop souvent que je rate des trains, que ma valise n'est pas prête et que ces choses-là, ça bon. Oui. Mais par contre, les rêves avec Maurice Ravel, ça, j'aimerais bien en faire plus souvent.
Ah ouais. Et avec d'autres, vous en avez fait aussi?
Oui, j'ai rêvé que je dînais avec Dutilleux, Abadeau et Boulez. C'était très sympa.
D'accord. Ça doit être un peu pesant quand même, c'est des gens sérieux tout ça, non?
Non, mais ça m'inspire. Je suis absolument passionnée et j'écoute, je suis à l'écoute, je veux apprendre, Non, ça, c'était extraordinaire.
Juliette Turel rêve de beaucoup de choses. Elle écoute de la musique aussi. Enfin, est-ce que vous en écoutez beaucoup d'ailleurs? Tiens, Juliette, vous êtes une gronde.
Beaucoup moins qu'avant. Ouais. Beaucoup moins
par
qu'avant.
Par goût, par manque de temps?
Par amour du silence.
Ah, d'accord.
Avant, je n'aimais pas le silence, ça me mettait mal à l'aise. Maintenant, j'adore. Je me pose et. Et je n'ai pas besoin d'écouter de la musique. Mais parfois, si. Alors parfois, étonnamment, souvent, je mets YouTube.
D'accord.
Parce que ça m'amuse de découvrir des versions, des artistes. Et j'aime bien aussi faire découvrir des choses à mes enfants. Et on va parler du tombeau de Couperin, là?
Ah ben bah oui, exactement. Voilà, oui, je vais vous demander si là-dessus vous avez trouvé.
Oui, alors justement, j'ai emmené mes enfants récemment. J'ai joué le tombeau de Couperin en version quintette avant. Uh-huh. C'est une assez belle version. Et quand nous sommes rentrés, je pense que Jean, mon deuxième garçon, était en train de dessiner ou quoi. Et moi, j'étais sur mon ordi. Je dis, attends, je vais te faire écouter. Parce que figure-toi que c'est la version originale et pour orchestre. Enfin non, pour piano d'ailleurs. Mais il y a une version orchestrale. Mmh. Et aujourd'hui, tu as entendu le quintette avant. Et donc, je fais YouTube, tombe beaucoup de coups, un piano, paf. Et je tombe sur la version de Louis Lortie que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai adoré. Voilà. Et bon. J'ai découvert des articulations que je ne connaissais pas.
Que vous n'imaginiez pas.
Voilà, donc j'ai écouté ça et c'était très bien.
Thank you.
C'est Louis Lortie qui jouait au piano ce prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Choix CD du jour pour nous de Juliette Durel. Juliette, quelques mots sur les concerts à venir en France, il y en a quelques-uns. Parce que vous ne jouez pas qu'à Rotterdam, on vous voit ici en concert et en récital. 24 juin avec Hélène Couvert, la grande copine. Vous serez au Trianon à Bordeaux. Oui. C'est quoi le programme?
Nous jouons les variations de Schubert sur un thème de la Belle Meunière.
Ah oui.
Qui était notre dernier disque, toutes les deux. Et puis, la sonate de Poulenc, le prélude à l'après-midi d'un faune, je ne sais plus.
Et quelques grands classiques. Voilà. 28 juin, avec le Quatuor Voce, justement, ce sera le programme du disque que vous ferez à Bruxelles, c'est ça, hein?
Le Festival Musique 3.
D'accord. Bon, les amis bruxellois, il y en a quelques-uns, je le sais. Le 18 juillet, Noyères-sur-Serein. Alors ça, je ne connais pas du tout.
C'est un extrêmement joli, je ne sais plus parler. C'est un très beau village en Bourgogne.
D'accord.
Avec une belle église et un très beau festival. Le festival, je ne sais plus comment ça s'appelle, Noyères-sur-Serein, les rencontres musicales, enfin bref, nous jouons là les Quatuors Mozart.
Et vous reviendrez donc avec l'orchestre de Rotterdam la saison prochaine
en France? Oui, au Théâtre des Champs-Élysées toujours, je ne sais plus si c'est septembre ou octobre, mais en tout cas en début de saison.
D'accord, vous comptez rester longtemps à vie dans cet orchestre-là, j'ai l'impression, vous y êtes bien.
Mais
hein.
Oui, je suis très
bien. Parce que des fois, une fois qu'on a trouvé un orchestre, certains musiciens essaient de changer d'un
trouver
un.
Non, mais je n'ai pas envie de bouger du tout,
surtout
du tout.
Pas.
Non, j'y suis bien, j'aime mon orchestre.
C'est ça que vous trouvez là-bas en plus.
Ma vie est là-bas, oui. C'est vraiment. En plus, c'est vrai que la connexion avec la France est très facile.
Ouais. Donc. Faut combien de temps? 2-3 heures de train.
2h30 de train.
Ah ouais, ça va.
Donc c'est vraiment très très facile. C'est bien pour les concerts, c'est bien pour la famille, c'est bien pour les amis. Donc c'est un très très bon spot géographique.
Et pour la Prénézé Séguin, d'ailleurs, vous savez, on ne sait pas encore.
Non, on cherche.
Vous cherchez. C'est les musiciens qui cherchent là d'ailleurs.
C'est les musiciens qui cherchent.
Ah oui.
Oui.
D'accord. Donc vous posez la question et c'est vous qui déciderez au bout du compte.
Oui, bien sûr. En fait, à chaque fin de semaine, nous avons un formulaire à remplir sur les chefs d'orchestre, où on dit ce qu'on pense. C'est intéressant. Là, maintenant, il y a une shortlist, ça s'appelle, avec 5 ou 6 noms qui sont en train de tourner.
Et ça, vous nous le direz la prochaine fois. Merci de votre visite, Juliette.
Je vous en prie, merci à vous.
Un dernier Mozart. Le rondi Eaux. C'est Mozart qui l'orthographie comme ça, le plaisantin de ce quatrième quatuor pour flûte. Juliette Hurel avec le quatuor Voce, ce disque tout Mozart est paru chez Alpha. L'émission était préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Adelino Mello et Victor Buton.